Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Ronelie Tibonera.
Très heureux, je vous retrouve dans cette seconde livraison de nos informations. C'est mercredi 15 juillet 2026, marque 2 mois jour pour jour depuis le début de la 17e épidémie d'Ebola dans la province de l'Ituri. Malgré la mobilisation d'acteurs et des fonds, la maladie continue de s'étendre dans de nouvelles provinces. Pas de miracle ce mardi dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Les troupes rwandaises ne se sont pas retirées ce 15 juillet 2026, contrairement à l'espoir affiché par Washington en juin dernier. 10 jours après l'échange entre les opposants de la coalition C64 et le président burundais Evariste Ndayishimiye, les retours analysent les différentes tendances politiques, livrent leurs avis sur le bien fondé de cette initiative. Ils sont à suivre dans la rubrique Invité. Deux mois après la déclaration officielle de la 17e épidémie d'Ebola à RDC, des avancées dans la riposte ont été enregistrées avec plusieurs centaines de guérisons. Cependant, malgré ces avancées, de nombreux défis restent à relever pour éradiquer cette maladie qui continue de s'étendre dans d'autres provinces. Retrouvons Martial Kizabia Mungu à Bunia, à Ituri, épicentre de cette maladie, pour plus de détails.
Depuis le 17 mai dernier, d'importants efforts sont déployés par le gouvernement congolais et ses partenaires. Selon le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, 50 millions de dollars américains ont été décaissés par le gouvernement depuis le début de l'épidémie. Cependant, la grève des prestataires de santé affecte le bon fonctionnement de certains centres de traitement. Ils réclament le paiement de leurs primes et salaires malgré les promesses du ministre de la Santé publique qui, lors de son dernier passage à Bunia la semaine dernière, avait promis de décanter la situation. À cela s'ajoute l'insécurité dans certaines des zones affectées par la maladie qui touche désormais à 5 provinces, l'Ituri, le Nord et le Sud de Kivu, la Tchopo et le Haut-Uele. Le dernier bilan officiel fait état de 1926 cas confirmés d'Ebola, dont 702 décès. Bunia. Martial Kiza Biabongo, Radio Okapi.
Nous restons toujours dans la province de l'Ituri où la société civile de la chefferie de Bahema Irumu s'est dit à la fois soulagée et préoccupée après la reprise mardi 14 juillet des activités au centre de traitement d'Ebola de Rwampara, situé à une douzaine de kilomètres de Bunia, chef-lieu de cette province. Les prestataires de la riposte ont repris le travail après une journée de grève destinée à réclamer le paiement de leurs primes. Mais cette reprise reste conditionnelle. La société civile redoute une nouvelle interruption des soins si le gouvernement ne répond pas rapidement aux revendications des agents. Les précisions de Jean-Claude Lokidile.
Après une journée de grève lundi qui a paralysé les activités du centre de traitement d'Ebola de Rwampara, les équipes de la riposte ont repris le travail ce mardi 14 juillet, une décision saluée par la société civile de la chefferie de Bahema Irumu qui estime que ce retour au travail permettra aux malades de retrouver l'accès aux soins. Toutefois, cette reprise reste conditionnelle, affirme-t-elle. Les prestataires de la riposte accordent un ultimatum de 72 heures au gouvernement pour obtenir le paiement de leurs primes. Selon le président de la société civile locale, Isaac Nyakulinda, la journée de grève a déjà eu de lourdes conséquences sur les malades.
Une seule journée de grève a déjà causé des dégâts. Des malades n'ont pas pu accéder au centre. Certains sont décédés à domicile faute de soins. Parce qu'on a fait appel à l'équipe pour venir, à l'ambulance pour venir les transporter et l'accès aussi n'y en avait pas. Nous tenons le gouvernement pour seul responsable de toute perte de vies humaines si le site de Rwampara referme après cet ultimatum.
Cette situation persiste malgré la promesse faite récemment à Bunia par le ministre national de la Santé de régler rapidement la question du paiement des primes des équipes de la riposte, une promesse qui jusqu'à ce jour n'a pas encore été concrétisée. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile. Radio Kapi.
Nous revenons ici à Kinshasa où le directeur général du groupe Agence française de développement AFD, Christophe Lecourtier, a effectué mardi une visite officielle à l'Institut national de recherche biomédicale, INRB. Première étape de sa mission en République démocratique du Congo depuis son arrivée lundi. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération scientifique entre la France et la RDC. Ce partenariat existant a déjà permis à l'INRB de bénéficier de multiples appuis, notamment dans la formation, la recherche et la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Askan Zigbiatayoro.
À son arrivée, Christophe Le Courtier a été accueilli par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INRB. Dans un contexte marqué par une nouvelle épidémie d'Ebola en RDC, ce dernier a salué le choix de l'AFD de débuter sa visite à l'INRB, symbole de la qualité de la coopération entre les deux institutions.
La première contribution, c'est d'abord la formation. Ceux qui sont sur le terrain là-bas, le professeur Placide, il a fait sa thèse à Montpellier, en France. Le professeur Aouka, qui vient d'être nommé incident manager, il a fait aussi sa thèse à Montpellier.
De son côté, le directeur général de l'AFD a salué le travail accompli par les chercheurs congolais, notamment dans le domaine de la santé publique. Selon lui, les avancées scientifiques réalisées en RDC contribuent non seulement à la protection des populations congolaises, mais également à l'amélioration des connaissances et de la sécurité sanitaire au niveau international. Christophe Le Courtier.
Plein de gratitude pour le centre de recherche que vous constituez, avec la qualité des professeurs que vous avez su rassembler. Et ce rôle de sentinelle, évidemment, vous le jouez finalement pour nous tous, pour l'Europe aussi.
Cette visite a également permis de réaffirmer l'engagement de la France en faveur de la recherche en RDC, avec l'annonce de la construction prochaine d'un nouveau bâtiment administratif pour l'INRB.
Guerre dans l'Est de la RDC, le constat est décevant. L'objectif fixé par Washington n'a pas été atteint. Le 4 juin, le secrétaire d'État américain Marco Rubio exprimait l'espoir de voir les troupes rwandaises se retirer d'ici la mi-juillet. Mais au 15 juillet, aucun désengagement des forces de défense rwandaises RDF n'a été observé dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Sur les terrains, les combats se poursuivent tandis que Kinshasa et Kigali s'accusent mutuellement de ne pas respecter leurs engagements. Les précisions avec Martial Papimukeba.
Au 15 juillet 2026, aucun retrait des forces de défense rwandaises, les RDF, n'a été officiellement observé dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent au nord et sud Kivu, alors que les deux parties s'accusent mutuellement de bloquer la mise en œuvre des engagements pris. L'accord de paix signé à Washington prévoit des engagements par Kinshasa et Kigali. Le Rwanda s'est engagé à lever ses mesures de défense, un processus qui comprend notamment les retrait de ses troupes du territoire congolais. De son côté, la RDC doit prendre des mesures pour neutraliser les rebelles rwandais des FDLR. Toutefois, le texte ne prévoit pas des sanctions automatiques en cas de non-respect des engagements par l'une des parties. Résultat, faute des sanctions automatiques, l'objectif évoqué par Marco Rubio est passé sans avancée visible, relevant les difficultés à traduire les engagements diplomatiques en actes. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Nous restons dans l'est du Congo. L'ONG Badilika alerte sur les tueries perpétrées contre près de 200 civils entre avril et juin 2026 dans les territoires de Beni, Rutshuru, Masisi et Walikale. Dans son rapport publié le 13 juillet, la structure révèle qu'en plus des personnes tuées, des centaines d'autres ont été blessées, enlevées, arrêtées arbitrairement ou contraintes de fuir leur village. Selon ces documents, les rebelles ADF seraient responsables de près de 90% des tueries recensées, principalement dans les territoires de Beni. Le rapport cite également le Wazalendo et l'AFC M23 pour des cas d'enlèvement, des disparitions forcées, d'arrestations arbitraires, des pillages et des destructions des biens. Le responsable de Badilika appelle toutes les parties au conflit à respecter les droits humains et les droits internationaux humanitaires. Patrick Nguka au micro de Bernard Nyangui.
Les territoires de Beni, les attaques d'ADF se sont intensifiées. Malgré même qu'il y ait présence des opérations militaires sous Jean, il y a eu 199 civils qui ont été tués entre avril et juin. Il y a eu des manifestations et on voit enregistrer plusieurs cas de torture. Et là, on a remarqué même la présence des armes létales dans l'encadrement des manifestants. À Rutshuru, il y a eu une multiplicité des homicides, des arrestations arbitraires des garçons accusés à tort qu'ils seraient membres ou collaborateurs des groupes armés Ouazalendou et les FDLR, territoire de Wali Kale et Massis. Nous avons marqué intensification des opérations entre M23 et FARDC et groupe Ouazalendou, notamment autour de Roubaïa. Certains jeunes élèves n'ont pas accédé à des examens suite au bombardage de leur zone dans les opérations. Ce rapport vise d'abord à souligner la dégradation persistante de la situation des droits de l'homme et l'insuffisance des protections des civils. Il rappelle aussi les parties en conflit de respecter les droits internationaux humanitaires et l'instauration de la paix durable et surtout l'établissement de l'état des droits dans cette partie.
Posons nos valises à Lubumbashi. La ville connaît une hausse du prix du transport en commun. Conséquence de l'opération de recouvrement forcé des documents des véhicules déclenchée depuis quelques jours par la direction des recettes du Haut-Katanga. Des barrières de contrôle sont érigées sur plusieurs artères, rendant rares les véhicules de transport, notamment les minibus. La majorité des Louchois se voient contraintes de recourir aux motos pour leurs déplacements, quand en conducteur de minibus et voitures disposant des documents de bord en règle, ils en profitent pour spéculer sur les prix des courses. Reportage de Paul Munanga.
À l'arrêt des bus de transport en commun reliant les centres-villes de Lubumbashi au quartier Machipicha, un receveur crie à tue-tête pour approcher des clients en insistant sur le fait que son véhicule est en ordre avec tous les documents exigés par la DRH4. Désormais, le prix d'une course qui était de 1000 francs congolais est passé à 1500 francs. Les conducteurs profitent de la rareté des taxibus sur ces tronçons pour hausser le prix de la course. Certains minibus sans documents font pratiquement les demi-terrains pour éviter les postes de contrôle. Il préfère s'arrêter à quelques 200 mètres de la barricade des agents de la DRH4. Et de l'autre côté de la route, quelques taxibus font de même. Les passagers descendent d'un taxibus, puis traversent à pied les postes de contrôle de la DRH4 et vont prendre un autre taxibus de l'autre côté. Pendant ce temps, les motocyclistes qui font aussi les transports sont très sollicités. Ils en profitent aussi pour revoir les prix de la course à la hausse. Signalons cependant qu'une bonne partie de la population fait les pieds. À travers ces recouvrements forcés, la DRH4 contrôle la vignette, l'assurance et les certificats de contrôle technique. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Rappeler les règles garantissant la fiabilité des opérations de change manuel, assurer la traçabilité des transactions et prévenir les fraudes ainsi que les activités financières illicites. C'est parmi les objectifs de la rencontre tenue lundi entre la Banque centrale du Congo, le bureau de change agréé, la corporation professionnelle des cambistes Emmanuel, COPCAM et les cambistes indépendants. Nous sommes ici à Kinshasa. Un cadre d'échange destiné à renforcer la sécurité des transactions bancaires auprès de bureaux d'échange. Un reportage de Jean-Désiré Kanyama rendu par Benjamin Moudoumbi.
Cette rencontre fait suite à l'objectif de la BCC d'assurer un marché d'échange plus transparent, profitable autant aux professionnels qu'aux citoyens et où l'économie nationale gagne en stabilité. C'est là, étant donné que de nombreux Congolais font recours aux bureaux d'échange, notamment pour préparer un voyage, régler une transaction commerciale ou conserver une partie de leur épargne en devises étrangères. Et pour les dirigeants de la BCC, le message et la procédure sont simples. Avant une opération, le cambiste doit demander au client une pièce d'identité valide. Cette exigence, loin d'avoir pour objectif de compliquer la transaction, répond à plusieurs obligations, notamment contribuer à rendre les marchés plus sûrs. Aussi rappelle la BCC, dans la transaction en bordereau indiquant notamment les devises échangées, les montants de la transaction et les taux d'échange appliqués est un document à ne jamais négliger. Il peut être utile en cas d'erreur, de contestation ou de vérification ultérieure. Mais pour limiter les risques, il est recommandé d'effectuer ces opérations auprès d'un bureau d'échange agréé ou d'un cambiste régulièrement affilié, tenu de respecter des règles précises en matière de sécurité, de transparence et de traçabilité.
À Bounia, le fruit devient de plus en plus inaccessible pour de nombreux ménages. Mangue, orange, ananas, papaye ou encore avocat voient leur prix grimper semaine après semaine. Cette flambée contraint plusieurs familles à réduire leur consommation, alors même que les professionnels de santé recommandent d'en intégrer régulièrement dans une alimentation équilibrée. Reportage de Jean-Claude Lokidile.
Au marché central de Bounia, les étals sont bien garnis, mais les acheteurs se font rares. En quelques semaines, une papaye qui coûtait 2000 francs congolais se vend aujourd'hui à 4000 francs.
voire 5 000 francs. Les commerçants expliquent que la hausse des prix résulte de plusieurs facteurs.
Pastèque et tout qu'on apporte.
On aurait vendu la pastèque importée de l'Ouganda à un prix très élevé, tout comme les pommes. Quant aux ananas, ils proviennent du territoire de Djougou. Malheureusement, cette partie de la province est confrontée à l'insécurité.
Certains ménages affirment avoir carrément arrêté leur consommation de fruits. D'autres, plus nombreux, reconnaissent l'avoir considérablement diminué.
Aujourd'hui, les fruits sur les marchés ont considérablement augmenté. Il devient vraiment difficile pour nous d'en acheter, même pour en offrir à nos enfants.
Pour atténuer les effets de cette flambée des prix, le docteur Charles Kisamba recommande aux ménages de disposer d'un espace et de planter des arbres fruitiers dans leurs parcelles.
D'habitude, ce que je fais quand j'achète un bon fruit, je mange et je plante le noyau.
Si au centre-ville, ils deviennent de plus en plus coûteux dans certains quartiers périphériques, les ménages peuvent encore s'en procurer à des prix relativement plus abordables. Une différence qui pousse de nombreux consommateurs à parcourir plusieurs kilomètres pour préserver leur pouvoir d'achat. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Actualité internationale.
Le gouvernement britannique renforce son arsenal de mesures pour protéger les jeunes des Snapchat, TikTok et Instagram. Londres a annoncé mardi 14 juillet un couvre-feu nocturne entre minuit et 6 heures du matin sur les réseaux sociaux pour les adolescents des 16 et 17 ans. Une mesure qui complète l'interdiction des réseaux sociaux au moins des 16 ans annoncée en juin dernier. Le Royaume-Uni est devenu donc en juin les derniers pays en date à annoncer l'interdiction des sites de réseaux sociaux dont Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram et Facebook au moins des 16 ans. La mesure donc doit entrer en vigueur d'ici 2027.
L'invité.
Les opposants congolais membres de la coalition C64 ont rencontré il y a 10 jours à Bujumbura les présidents burundais Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine. Lors d'une rencontre des presses des restitutions tenues jeudi dernier à Kinshasa, ces opposants ont indiqué que le président Ndayishimiye avait voulu connaître leur position sur les dialogues politiques en RDC. Ils affirment qu'ils les avaient rassurés avoir invité les autorités congolaises à privilégier les dialogues et la cohésion nationale afin de protéger et renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Cette initiative du président burundais a été analysée mardi dans l'émission Dialogue entre Congolais. On écoute les intervenants au micro de Guy Maté.
Dieudonné Bolengetenge, vous êtes secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Dans cette déclaration que nous venons d'écouter, faite par M. Jean-Marc Kabound, il est dit que le président Evariste Ndayishimiye a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier le dialogue politique et la cohésion nationale en vue de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesantes sur sa souveraineté. Mais est-ce qu'il vous a dit ce qu'était la réponse des autorités congolaises à sa proposition?
Bien, le président burundais a commencé par nous avouer que sa dernière venue à Kinshasa était le fait de sa propre initiative. C'est lui qui a sollicité de rencontrer le président de la République démocratique du Congo parce qu'il est convaincu qu'il n'y a que le dialogue qui peut aider à trouver une solution sérieuse, une solution durable à la crise qui frappe la République démocratique du Congo. Donc, il est venu ici à Kinshasa, selon lui, avec cette proposition déjà dans ses bagages. Et c'est lorsqu'il a vu une attitude positive de l'autorité de la République démocratique du Congo qu'il est, une fois rentré chez lui, qu'il a pris l'initiative d'inviter notamment notre coalition ainsi que d'autres acteurs comme les chefs religieux pour en discuter. Donc, il a pris l'initiative parce que lui-même est déjà convaincu que, quel que soit l'intervenant extérieur qu'on peut inviter pour nous aider, celui-ci ne viendrait que pour se préoccuper aussi de la manière dont il peut tirer un intérêt ou un avantage de la situation. C'est pourquoi il a toujours encouragé les Congolais à faire preuve de dépassement pour accepter de se parler de manière à sauver la République démocratique du Congo.
Merci Dieudonné Nkishi, vous êtes président du parti politique Congo Positif, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes initiateur du Front Anti-Dialogue National. Comment vous réagissez à cette initiative du président Ndayishimiye qui a consisté à inviter au Burundi l'opposition C64 et quelques confessions religieuses pour réfléchir sur la crise congolaise?
J'ai noté que le président du Burundi, qui est également président en exercice de l'Union africaine, a invité les personnalités de l'opposition de notre pays pour leur parler de contingences qui menacent la souveraineté du pays. Donc, un pays qui est menacé. Et ça, c'est un président d'un pays voisin qui nous l'a dit, que notre pays, sa souveraineté qui est menacée. Et vous avez bien fait de poser la question à M. Dieudonné, la question de savoir de quelle crise on parle. Il vous a dit que c'est une crise multidimensionnelle. Mais si c'est une crise multidimensionnelle, il n'y a pas une intelligibilité là-dedans, il n'y a pas une lisibilité là-dedans pour qu'on pense vraiment que les dialogues seraient la solution. Et même si ces dialogues-là se tenaient, n'oublions pas que ça fait 47 fois. Ça fait 47 fois qu'on a dit, bon, si nous dialoguons, nous allons résoudre les problèmes. Mais ça fait quand même 47 fois que les problèmes n'ont pas été résolus. Ça veut dire que la solution ne passe pas par le dialogue.
Merci, Jeff Moudimbi. Vous êtes professeur à la Faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi, Inilou. Quelle analyse vous faites de ces échanges de Bujumbura ainsi que des positions de la coalition C64 à ce sujet?
Bien, je note que le dialogue, il est souhaitable pour des raisons évidentes suivantes. D'abord, il faudrait comprendre que le dialogue est une voie pacifique des résolutions des conflits. À ce titre, nous estimons que bon, si réellement le dialogue constitue la voie la mieux indiquée pour aplanir les angles qui nous divisent, il est souhaitable que nous puissions nous allier sur cette voie-là. Mais pour que nous puissions arriver à un dialogue, il faudrait aussi que les deux parties en opposition ou qui s'affrontent puissent réellement arriver à croire au dialogue comme voie de résolution des différends qui les opposent.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.